nous voulons rendre grâce au Seigneur. Oui, notre Dieu, tout dans la nature, nous parle de toi. Nous voulons te demander que vraiment, nous ne passions pas dans ce monde comme des aveugles, qui ne voient que les choses troubles ou le péché, mais que nous soyons de ceux qui voient les beautés que tu as semées partout, et que nous puissions être sensibles à toute cette puissance que nous voyons et à tout cet ordre divin qui préside à toutes choses, que ce soit dans le règne animal, que ce soit dans le règne végétal ou minéral. Nous te louons de tout notre cœur de nous avoir fait connaître que tu es le Créateur. Nous croyons que tu as fait toutes ces choses et nous voulons en jouir. Et nous croyons aussi que toutes ces merveilles ne sont que les ombres des choses plus merveilleuses et qui sont pour l'instant pour nous invisibles, mais qui sont éternelles, tandis que celles que nous voyons passent. Ô Dieu notre Père, accorde-nous la grâce aujourd'hui d'avoir une intelligence ouverte, des cœurs ouverts pour recevoir ta parole en chacune de nos vies et que nous devenions des Bibles vivantes en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes arrivés au matin du 12 juillet et nous poursuivons notre étude sur le thème « Vous serez mes témoins » qui est une parole de Jésus ressuscité à ses disciples avant de retourner dans la gloire d'où il était venu. Acte 1, verset 8. Et ce matin, nous avons à parcourir les chapitres 21 et 22 du livre des Actes, soit 70 versets, puisque le chapitre 21 en a 40 et le chapitre 22, 30. Et ces chapitres vont nous parler du voyage de Paul et de ses compagnons de Milet jusqu'à leur arrivée à Jérusalem, où l'apôtre Paul tient absolument de se trouver. Puis, nous allons assister à l'arrestation de Paul dans le temple de Jérusalem, et après cela, nous entendrons le discours de Paul qu'il fit au peuple de cette ville qui avait crucifié le Seigneur Jésus. Et ensuite encore, nous suivrons Paul dans la forteresse où il fut emprisonné et où on allait le soumettre à la question, c'est-à-dire au fouet, pour savoir ce qui provoquait son arrestation. Et c'est alors que Paul, alors qu'on l'avait déjà dévêtu pour le battre, a dit à l'un des soldats, « Est-ce qu'il vous est permis de battre un citoyen romain ?» Et alors là, on a eu peur, on est allé trouver le chef de cette garde de Jérusalem, qui était un Romain, et il n'a pas été battu. Ainsi partout, nous allons, dans ces chapitres, apprendre comment Paul fut un témoin du Seigneur, puisque c'est là notre thème, et que l'apôtre Paul devient pour nous un modèle que nous pouvons imiter, parce que lui-même disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Et ce qu'il osait dire, « Je voudrais que tous vous soyez comme moi. » Est-ce que nous en serions là? aujourd'hui, nous autres, est-ce que nous pouvons prétendre que nous sommes des gens tellement heureux que nous voudrions que tout soit comme nous, hein? Je vous souhaite d'être comme moi. Bien, c'est ce que nous devrions pouvoir dire au monde. Mais si le monde nous voit avec une longue figure, un long visage, et que nous sommes toujours en train de nous plaindre, eh bien, vous pouvez leur apporter l'évangile, la parole, ça ne les intéressera pas du tout, parce que vous n'avez pas l'air d'être heureux, vous n'avez pas l'air d'avoir un bon père, vous parlez de votre père du ciel, et puis vous avez l'air d'être des enfants malheureux. Quand on voit un enfant qui gémit, qui pleure, eh bien, ou qui se plaint, on se demande tout de suite, mais quel parent a-t-il ? Alors, souvenons-nous que si nous appelons Dieu notre Père, et que nous prétendons que Dieu est bon, eh bien, soyons aussi bons que lui. Soyez parfaits, disait Jésus, comme votre Père céleste est parfait. Il ne faut pas avoir toujours le nom du Seigneur dans la bouche, ou toujours parler de Dieu, comme on le dit si souvent, le bon Dieu, et il nous faut manifester dans notre vie que Dieu est bon. Alors hier soir, avec le chapitre 20 des Actes, nous avons donc vu Paul à Troas, passant son dimanche soir avec l'église de cette ville et opérant le retour à la vie d'un jeune homme, Eutyche, qui était tombé donc du troisième étage de la maison où se tenait cette assemblée. Paul avait parlé, comme on l'a vu, assez longuement, jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans cette salle chambre haute au troisième étage, de sorte que on y respirait peut-être pas très à l'aise, il y avait une certaine chaleur, et on peut très bien comprendre que ce jeune homme se soit endormi, non pas parce qu'il n'était peut-être pas intéressé, mais la fatigue aidant, ce qui était regrettable pour lui, c'est de s'être mis dans une position dangereuse. Quand vous choisissez vos places, comme aujourd'hui, eh bien j'espère que vous avez calculé si vous pouviez être au soleil ou si vous pouviez préférer l'ombre. Mais je ne voudrais pas non plus que ceux qui ont choisi l'ombre soient congelés à la fin de cette étude. De sorte que vous avez la possibilité de vous approcher, mes jeunes filles, hein, si vous avez froid. Vous pouvez vous rapprocher du soleil. Et l'on verra mieux vos visages, que nous espérons de jour en jour plus resplendissants et joyeux dans le Seigneur. Alors, on aurait pu s'arrêter hier soir sur le fait que le premier jour de la semaine devenait pour les chrétiens le jour du repos, plutôt que quel jour ? Le septième jour, hein, qui était le sabbat de la loi de Moïse chez les Juifs. Alors, pourquoi l'Église chrétienne a-t-elle cessé de fêter le sabbat pour se réunir plutôt le dimanche matin, le premier jour de la semaine? Bien, on peut donner plusieurs réponses, mais celles qui sont vraiment bibliques, c'est parce que l'Église était affranchie du joug de la loi. On l'a vu, hein, au Concile de Jérusalem, on a décrété que les païens n'avaient pas besoin de suivre la loi, sauf ce qui était absolument nécessaire. Et dans plusieurs autres passages, on voit que on peut vraiment justifier ce que les premiers chrétiens ont fait. Étant repoussé de plus en plus le jour du sabbat des synagogues, là où ils avaient pu prêcher au début, eh bien, ils ont éprouvé le besoin de se réunir en un jour où ils seraient ensemble dans la paix et où ils pourraient s'édifier les uns les autres. Alors, quel est le jour qu'ils ont choisi? Le dimanche, qui était le premier jour de la semaine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé le premier jour de la semaine? La résurrection. Tandis que le jour du sabbat, où était le corps de Jésus? Dans le tombeau. Comprenez-vous? Alors, on ne fête pas, on ne célèbre pas Jésus dans le tombeau. On célèbre Jésus ressuscité, Jésus vivant. C'est une nouvelle économie qui commençait. Et vous voyez dans l'Épître aux Galates, Paul écrivait au verset 8 du chapitre 4, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. » Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous avez connu Dieu, mais il y a quelque chose de mieux. Dieu vous a connu. Il vous a connu individuellement. Alors comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains, dit Paul, d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, et moi je suis comme vous, frère, je vous le supplie. Alors, nous n'avons plus à observer des jours, des mois et des années. Mais comme le principe biblique était qu'il y ait sur 7 jours de la semaine, un jour de repos, on a consacré le premier jour de la semaine comme étant un jour de repos. Mais il faut bien constater aujourd'hui que le dimanche, qui devrait être le jour de repos des chrétiens, le Christ étant ressuscité et par son œuvre ayant donné le repos à nos cœurs, qu'est-ce qu'il est devenu ce jour de dimanche? On l'a aussi profané, hein, comme les Juifs profanaient le jour du sabbat. On n'observait plus le jour du sabbat chez beaucoup de Juifs, on le transgressait, les affaires sont les affaires. Lisez le livre de Néhémie et vous voyez que, alors qu'on disait que le jour du sabbat on ne devait faire aucune œuvre, eh bien, on trafiquait, parce que c'est toujours l'argent qui domine le monde. Ce monde dont Satan est le prince. Alors nous avons bien compris que nous ne sommes plus sous ce joug légal et que nous pouvons vraiment célébrer le dimanche comme un jour de repos et le consacrer à l'adoration de notre Sauveur et de notre Seigneur. On pourrait lire aussi Colossiens 2, versets 16 et 17. C'est pourquoi aussi l'observation des fêtes que Paul a observé longtemps, eh bien, n'est plus absolument nécessaire. Nous ne sommes plus sous la loi légale. Hier encore, nous avons survolé le discours de Paul aux anciens d'Éphèse, réunis à Milet, et qui, je le souligne, devrait faire l'objet de votre méditation personnelle approfondie, parce que Paul allait quitter ces personnes et il savait qu'il ne les reverrait plus. Alors, il les réunit une dernière fois, les responsables de ces églises d'Éphèse, où il a travaillé sans compter pendant près de 3 ans, et il leur donne, au fond, un testament spirituel. Il leur rappelle ce qu'il a été pour qu'ils se souviennent de lui et qu'ils agissent comme lui avait agi. Et lui, comment agissait-il? Il agissait selon celui qu'il avait vu dans la gloire. Les premiers disciples, les apôtres qui avaient connu le Christ selon la chair, agissaient selon qu'ils avaient vu le Christ allant de lieu en lieu faisant du bien. Eh bien, les apôtres qui avaient suivi Jésus savaient comment agir. Le Saint-Esprit leur rappelait leur Seigneur qui avait été leur maître, doux et humble de cœur. Mais Saul de Tarse n'avait pas connu le Seigneur dans sa vie terrestre. Mais la grâce qu'il avait reçue, c'est qu'il avait vu Jésus où? Où l'avait-il vu? Dans le ciel, dans la gloire. Il avait vu un homme dans le ciel, comme qui l'avait vu au moment de sa mort? Étienne, qui avait dit, je vois Jésus, debout, à la droite de Dieu. Il était encore debout, il ne s'était pas encore assis. Parce que Jésus, si le témoignage d'Étienne avait été reçu, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Jésus serait revenu à ce moment-là pour apporter les temps de rafraîchissement. Mais cette suprême occasion qui était donnée aux Juifs n'a pas été reçue par les Juifs. Ils ont rejeté Jésus, puis ensuite ils ont rejeté le témoignage d'Étienne. Alors, le temps de rafraîchissement n'a pas pu être introduit et Jésus s'est assis, nous le voyons maintenant, toujours assis. Mais nous savons que bientôt, il se lèvera pour accomplir sa promesse, parce que toutes les promesses du Seigneur auront leur accomplissement. Il a dit, si je m'en vais, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et c'est ce qu'il a dit à son Père dans la dernière prière que nous avons du Seigneur dans Jean au chapitre 17. Il a pu dire ces paroles, « Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi. » Et on a souligné souvent que la seule fois que Jésus a dit à son Père, « Je veux », il l'a dit pour nous. Tandis que quand il priait pour lui, il disait, « Non pas ma volonté, ce que je veux, mais la tienne. » Et c'est très beau. Mais la volonté du Seigneur pour nous, il l'a exprimée à son Père. Il a tout accompli pour nous racheter, puis après il dit à son Père, « Mais voilà, j'ai fait cela pour toi, et je veux maintenant que ceux que tu m'as donnés soient avec moi dans ce séjour de la gloire. » Alors, vous allez méditer, puisqu'on n'a fait que de passer rapidement sur ce passage de Paul qui rappelle aux anciens d'Éphèse quelle a été sa conduite. Et vous pourrez trouver, si vous le voulez, au moins 12 caractéristiques d'un serviteur de Dieu modèle qui ne fait aucun cas de sa vie ni ne la tient pour précieuse à ses yeux, mais qui n'a qu'un but, pourvu que j'achève ma course, pourvu que je puisse servir au conseil de Dieu et arriver à la fin de ma vie en ayant gardé la foi et en pouvant me réjouir d'aller vers le Sauveur. Les gens qui meurent dans le Seigneur, leur lit de mort devrait être vraiment quelque chose de sublime. J'ai pu, par la grâce de Dieu, assister à quelques-uns de ces départs de personnes qui s'en allaient vers le Seigneur et qui ne grinçaient pas des dents, ou qui n'avaient pas peur de s'en aller, mais qui se sont presque soulevés dans ce dernier moment, ayant la vision de celui que nous ne pouvions pas voir. Je pense en particulier à mon grand-père, qui est mort à 90 ans, et qui ne s'était converti qu'à 75 ans, et qui avait commencé à lire sa Bible à 75 ans, après la mort de ma grand-mère. Eh bien, son départ, c'était un lumineux départ. Et c'est ce que nous avons mis dans le faire-part, pour faire connaître aux parents et aux amis de la famille le départ de mon grand-père. Il était parti dans une joie et l'éclat de ce qu'il avait vu est resté sur son visage jusqu'à ce qu'on ferme le cercueil. Il n'y avait pas besoin d'aller au salon mortuaire pour le grimer. Hein. Il était beau à 90 ans. Il était allé vers Jésus et son tout était dans la paix sur lui. C'est quelque chose de mourir dans le Seigneur, de s'endormir en Jésus. C'est un témoignage. Et je vous le dis aussi, nous devons être témoins du Christ dans notre vie et aussi dans notre mort. Et aussi dans notre mort. Bien sûr, il y a la maladie qui peut altérer nos traits, mais j'ai aussi souvent remarqué que même ceux qui ont passé par de grandes souffrances et qui sont restés dans la paix du Seigneur, une fois qu'ils étaient partis, c'était le visage aussi qui était complètement détendu. Alors maintenant, nous allons, après avoir souligné ce que nous pourrions voir comme caractère d'un serviteur de Dieu, je vous disais qu'on peut souligner au moins 12 points, et je dis simplement, Paul leur rappelle qu'il leur a prêché quoi d'abord? La repentance envers Dieu, dans les maisons et dans les lieux publics, et puis la foi au Seigneur Jésus, mais il ne s'est pas arrêté là, il dit qu'il leur a présenté tout le conseil de Dieu. Et je crois que c'est une grande lacune dans les missions d'évangélisation, c'est que on se borne justement à présenter ce que d'aucuns ont appelé le petit salut, ou le plan du salut, 1, 2, 3, 4, 5, les quatre lois spirituelles, hein, et puis ça y est, maintenant vous y êtes, alors que nous devons présenter tout le conseil de Dieu. Et leur montrer que la conversion, ce n'est pas l'arrivée, c'est le point de départ. Hein, et qu'il y a tout un chemin que nous devons parcourir, nous devons grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Alors maintenant, nous poursuivons avec le voyage donc de Milet à Jérusalem. Chapitre 21. Nous allons le lire comme nous faisons d'habitude. Nous nous embarquâmes. Jusque-là, ils avaient voyagé bien souvent à pied. Nous nous embarquâmes. Et qui nous? Luc et l'apôtre Paul et leurs camarades. Nous nous embarquâmes après nous être séparés de qui est-ce qu'ils s'étaient séparés? Des anciens d'Éphèse. Hein? Et vous vous souvenez combien c'était touchant. Tous ceux qui étaient là, qui étaient venus auprès de l'apôtre Paul, et qui l'embrassaient en étant affligés parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus on ne verrait plus son visage. Alors nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Vous pouvez trouver tout cela dans vos bibles sur les cartes, hein, et puis aussi sur la carte que j'ai mise. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et nous partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, une île dont on parle beaucoup maintenant, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Cette Syrie dont on nous parle presque tous les jours, et qui occupe quel pays maintenant? La Syrie? Le Liban, n'est-ce pas? Et nous abordâmes à Tyr. Tyr, qui est une des villes du Liban. Et le Seigneur est allé à Tyr autrefois, vous vous souvenez? Il est allé à Tyr et à Sidon. Et c'est là qu'il a répondu à la demande d'une femme cananéenne qui avait une fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Et il semble que Jésus ait été dur avec cette femme, parce qu'elle criait après les disciples, elle demandait à Jésus de s'arrêter, et puis les disciples ont dit, « Renvoie cette femme, elle crie après nous. » Et Jésus a dit à cette femme, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » C'est une parole qui paraît dure. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que les Juifs, et les disciples aussi, ils appelaient les païens des chiens, n'est-ce pas? Alors, il a pris leur langage, hein, et la femme, au lieu de se vexer, hein, et de dire, mais tu m'insultes, ben non, elle a dit, oui, Seigneur, mais les petits chiens, elle s'est mise plus bas qu'un gros chien, hein, les petits chiens, ils peuvent bien ramasser les miettes, elle ne demandait que les miettes, moi je trouve ça admirable. Cette païenne, elle a accepté que ce que Jésus disait, c'est vrai, on est des chiens, mais même les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table. C'est admirable. Alors, quand Jésus a entendu ça, il montre son cœur. Il dit, mais je n'ai jamais vu en Israël une pareille foi. C'était une cananéenne. Et alors, il guérit son enfant. Mais vous voyez, c'était pour donner à cette femme l'occasion de manifester sa foi. Ce n'était pas pour l'humilier. Quand Jésus a l'air de vous éprouver, ce n'est pas parce qu'il se plaît à vous faire mal, mais c'est parce qu'il voudrait vous donner l'occasion de vous épanouir et de manifester lui-même votre foi et de vous donner en exemple aux autres. Eh bien oui, c'est cela, quand vous arrivez à Tyr, vous pensez à la visite de Jésus à Tyr et à Sidon. Et c'est là que l'apôtre Paul et les siens arrivent, c'est là que le bâtiment devait décharger sa cargaison. Il y avait donc déjà bien des affaires qui se faisaient par voie maritime. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples. Et il y avait donc une église là, à Tyr, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et pourquoi? Parce qu'on savait qu'il risquait sa vie. Mais Paul avait dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Si je dois mourir à Jérusalem, je mourrai à Jérusalem. Mais il sentait qu'il devait y aller. Mais les disciples, eux, ils auraient voulu garder l'apôtre Paul. Ils ne désiraient pas qu'il meure. Et poussés par l'Esprit, parce qu'ils avaient aussi le Saint-Esprit, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais c'était surtout leur sentiment qui les travaillait. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, verset 5, nous nous acheminâmes pour partir. Vous voyez que on ne peut pas suivre toujours les conseils de nos amis. Il nous faut suivre la direction de qui? De Jésus. Vous devez avoir des convictions personnelles. Parce que si vous allez demander à Pierre, si vous allez demander à Jacques, si vous allez demander à Jean, vous ne saurez pas ce que vous devez faire. Les uns vous diront que vous devez faire ceci, d'autres vous diront non, et vous devez absolument avoir une relation personnelle avec le Seigneur, sans intermédiaire. Alors, tous nous accompagnèrent. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase. Hein. Avec qui? Leurs femmes et leurs enfants. Ce que nous devrions voir plus souvent dans les églises, dans les assemblées. Les parents, la femme et le mari avec les enfants, là. Vous voyez, ils accompagnèrent l'apôtre Paul avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Vous pouvez méditer là-dessus. Avec leurs femmes et leurs enfants. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre à genoux sur le rivage? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre à genoux ici aussi? On pourrait. Et nous priâmes. on peut prier partout, dans la nature, et prier ensemble quelque chose de béni. Nous avons eu la visite de nos chers amis de Québec dimanche, qui sont venus depuis Québec, parce que chaque année, pendant des années, ils sont venus à nos camps Mahanaïm, et ils étaient là au rang croche, hein, comme on l'appelle, et puis tous les jours, c'était 5 heures, hein, je crois, eh bien, ceux qui le voulaient se réunissaient là au rang croche avec Thérèse et Charles Baillargeon, et ils avaient un moment de prière. Et ils ont porté le camp dans la prière, mais c'était là, en plein air, et personne n'était obligé d'y aller, et ceux qui y allaient avaient au moins une tasse de thé, en plus de la prière. Voilà ce qui était spontané, et c'est ça qui a de la valeur pour le Seigneur. Donc, on peut prier partout. Verset 6. « Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Il faut savoir aussi se séparer, mais quand on se sépare, ça ne veut pas dire qu'on va s'oublier les uns les autres. » Verset 7. « Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères, et passâmes un jour avec eux. » Vous voyez, ce besoin de rencontrer des frères. Tiens, il y a dans cette ville tel croyant, il est peut-être isolé, j'y passe, pourquoi est-ce que je ne lui ferai pas une petite visite? Et nous pourrions prier ensemble, et ça l'encouragerait. Alors nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Verset 8. « Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. » Césarée, c'était la ville romaine au bord de la Méditerranée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était aussi un des 7 diacres, hein, celui qui avait annoncé l'évangile en Samarie et qui avait été appelé par le Seigneur à se rendre sur le chemin de Jérusalem à Gaza, qui était désert, où il avait rencontré qui? L'eunuque d'Éthiopie, un noir important, ministre de la reine de Candace, la reine Candace d'Éthiopie, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, qui n'avait pas trouvé ce qu'il voulait, mais qui repartait avec le rouleau d'Ésaïe, et il lisait dans le rouleau d'Ésaïe quand Philippe a pu lui expliquer ce qu'il lisait. Eh bien, ce Philippe, qui avait quitté l'eunuque après le baptême de ce noir, était allé à Azote, transporté par le Seigneur, puis s'était établi à Césarée. Et il continuait son ministère d'évangéliste tout en étant à Césarée. Et il est bien souligné qu'il était l'un des 7. Et quand on est un Philippe, on dit à Paul et compagnie, allez loger à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait? On exerce l'hospitalité. Hein. Vous voyez que l'hospitalité était quelque chose de sacré. Alors, Paul a logé avec ses amis qui l'accompagnaient. Nous logeâmes chez lui. Et Philippe, il nous a dit qu'il avait 4 filles qui avait couché avec tous les garçons. C'est ça? Il avait 4 filles vierges, puis qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prophétisaient. C'est-à-dire qu'elles étaient capables de donner une parole qui venait du ciel. C'est beau cela, hein? Avoir 4 filles qui appartenaient vraiment au Seigneur et que le Seigneur pouvait employer comme un canal pour qu'elle puisse apporter à d'autres jeunes filles une parole venant du cœur de Dieu. Elles étaient au service du Seigneur. C'étaient les 4 filles de Philippe. Quand un homme est fidèle, le Seigneur peut agir aussi dans sa famille et au sein de ses enfants. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. On l'a déjà rencontré une fois. Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, vous voyez, on mimait les prophètes souvent, comme dans l'Ancien Testament, ils mimaient leurs paroles. En même temps qu'ils parlaient, eh bien, ils avaient des gestes qui faisaient mieux comprendre. Alors, cet Agabus prend la ceinture de Paul, puis il se lie devant tout le monde, les mains et les pieds, et qu'est-ce qu'il dit ? Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Au fond, ce qu'Agabus déclare devant tous, c'est que Paul aura le même sort que qui ? Que Jésus. Quand Jésus disait à ses disciples, voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes s'accompliront, qu'il serait arrêté, qu'il serait fouetté, et que finalement, on le crucifierait. Eh bien, voilà le sort qui est réservé à ceux qui veulent être des disciples fidèles. Ils le livreront entre les mains des païens, ce qu'on a fait à Jésus, quand on l'a livré entre les mains de qui ? De Pilate, n'est-ce pas ? Qui était le chef des Romains. Donc ça veut dire les compagnons de Paul, donc Luc aussi, nous, et ceux de l'endroit, donc ceux de Césarée, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Alors il répondit, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Voilà un témoignage. Mais il faut être prêt. Il ne faut pas se dire, ben moi j'aurai la force. Mais lui, il est prêt. Il a calculé la dépense et il sait qu'il ne reniera pas le Seigneur au dernier moment, parce que devant le martyr, il y a bien des hommes qui ont reculé. Quand on a arrêté autrefois Jean Hus, qui était un des précurseurs de la réforme qui a eu lieu dans l'Église, au sein de l'Église romaine, il y a eu des hommes qui se sont levés pour demander au pape de revenir à l'Évangile. Eh bien, on les a arrêtés, et Jean Hus a été condamné à être brûlé vif dans la ville de Constance, hein, malgré toutes les promesses qu'on lui avait faites. Et puis, il avait avec lui un camarade, un ami, et qui croyait les mêmes choses que lui, et qui s'appelait Jérôme de Prague. Hein. C'était des Tchèques. Hein. Et ce Jérôme de Prague, quand il a vu le feu, le bois où on allait le brûler, hein, il a abjuré sa foi. Hein. Il n'a pas pu. Hein. C'était trop pénible pour lui de penser qu'il allait être brûlé vif. Alors il a eu peur. Hein. Et alors, puisqu'il reniait le Seigneur, puisqu'il reniait ce qu'il avait cru, eh bien, on l'a laissé vivre. Mais vous croyez qu'on est heureux ? Non. Tandis que Jean Hus, il a frissonné lui aussi devant le bûcher. Et c'est très beau de lire sa vie, parce que quand il a vu ce bûcher où il allait être consumé, il a entendu une parole que j'aime beaucoup citer. Hein. C'est le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur ? Et ce texte biblique l'a rempli jusqu'au fond de lui-même et il est monté sur le bûcher et il est mort dans le Seigneur qui lui a donné sa force toute puissante. Mais vous voyez, on ne court pas au martyr, mais on doit savoir si je dois être martyr, est-ce que j'honorerai le Seigneur ? Vous savez, ça nous humilie de penser aux kamikazes. Hein. Vous savez ce que c'est que ces kamikazes? C'est ces gens qui se sacrifient mais pour faire du mal. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils mourront dans leur voiture qui va exploser ou dans l'avion, comme les Japonais quand ils sont descendus sur Pearl Harbor pour détruire la flotte américaine. C'était des hommes qui étaient sacrifiés. Et ils y sont allés en sachant qu'ils allaient mourir. Et alors nous autres, pour le Seigneur, on est toujours prêts à reculer. C'est quand même très humiliant. Eh bien, que le Seigneur nous saisisse, mais que nous ne soyons pas non plus de ces fanfarons qui pensent au « tout va bien, on peut faire n'importe quoi ». Et c'est là ce que Paul dit, « je suis prêt à mourir ». Verset 14. « Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes, quoi ? Soit fait. » Qui me fait dire que quand on peut dire cela, on sait que la volonté de Dieu sera une faite. Quand vous avez pu dire que la volonté du Seigneur soit faite, F-A-I-T-E, eh bien, vous pouvez aussi penser que le Seigneur fera que sa volonté soit pour vous une faite. Et quand Paul a pensé à la mort alors qu'il était à Rome, eh bien, il se réjouissait. Il disait, pour moi, vivre, c'est le Christ. Christ a été ma vie. Et mourir, c'est un gain. Car être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur. C'était une fête pour lui d'aller vers le Seigneur. Il n'allait pas au cimetière, il allait vers le Seigneur. Et quand on peut accepter la volonté de Dieu, qu'elle se fasse, eh bien, vous voyez que Paul n'est pas mort à Jérusalem. Ce n'était pas à Jérusalem qu'il devait mourir. C'était où ? À Rome. Verset 15. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous. Vous voyez, le groupe grossit et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Donc, il logeait chez des frères. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, qui était un des frères du Seigneur. Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait. Il n'a pas dit ce qu'il avait fait. C'est pourquoi, dans vos témoignages, cherchez toujours à montrer, non pas ce que vous avez fait, ce que vous avez pu être, mais surtout ce que Dieu a pu faire en vous. N'est-ce pas ? C'est cela qui peut impressionner les âmes. Il raconta ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Dieu veut vous employer. Mais il faut souligner surtout ce que lui a fait. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Parce que, évidemment, Paul se retrouvait à Jérusalem où il y avait surtout des convertis du judaïsme et qui gardaient quand même la loi. Alors qu'on avait décidé que les païens n'avaient pas besoin d'être circoncis et d'observer toute la loi, puisqu'ils étaient dans la liberté du Christ. Verset 21. C'est toujours Jacques qui semble dire cela. « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse. » Ce n'était pas exactement cela que Paul disait. Mais vous voyez, on déformait ce que Paul avait dit. Et puis, on allait plus loin que Paul. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes, c'est-à-dire qu'il n'obligeait pas ceux qui se convertissaient à se conformer à ces coutumes. Il ne disait pas qu'on ne devait pas le faire. S'il voulait le faire, il le faisait, comprenez-vous. Mais tout de suite, on disait que Paul disait qu'il ne fallait pas le faire. Or, Paul ne voulait pas dire une chose comme ça, puisqu'on sait que la circoncision, même pour un enfant, peut être une bonne chose. Que faire donc, verset 22 ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a toujours des gens qui veulent vous dire ce que vous devez faire, hein, avec les meilleures intentions du monde. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu, et nous avons vu que le Seigneur nous demande de ne pas faire de vœux. Mais dans l'histoire d'Israël, il y avait une loi concernant les vœux. Et alors, quand on était juif, peut-être qu'on était porté encore à faire un vœu. Même l'apôtre Paul en avait fait un. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, pourvois à leur défense, afin qu'ils se rasent la tête. C'était probablement le vœu du Nazaréen. Et qu'est-ce que le Nazaréen faisait? Il se laissait pousser les cheveux, et après les 30 jours de son Nazaréat, il rasait sa tête et on offrait ses cheveux sur l'autel. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire de ton compte est faux, mais que toi aussi, tu es un observateur de la loi. Au fond, qu'est-ce qu'ils voulaient, ces frères de Jérusalem ? Ils voulaient que Paul se justifie de cette accusation. Alors, fais comme un juif, on ne pourra pas dire que tu prêches cela. Or, évidemment, Paul, ce n'était pas sa conviction, mais par égard pour ses frères de Jérusalem, il a cru devoir suivre ce conseil. Puis, les frères de Jérusalem se disaient, s'il fait cela, il n'aura pas d'ennui. Hein? C'est pour vous éviter des ennuis qu'on vous demande de faire cela. Et ça passera. Mais ça n'a pas passé. Ce n'est pas les arrangements humains qui vous épargneront, comprenez-le bien. Et voyez le raisonnement de ces croyants. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Ça, c'était la lettre du concile de Jérusalem. Et il la souligne. Alors, Paul prit ses hommes et se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Il a fait, au fond, comme s'il était un juif. Et c'est ce qu'il dit dans une épître, hein. Avec les juifs, j'ai été comme un juif. Avec les païens, j'ai été comme un païen, souvent. Mais il reste l'enfant de Dieu. Mais voilà, on n'avait pas prévu quelque chose. À la fin des 7 jours, des juifs d'Asie, qui avaient entendu Paul en Asie, hein, mais qui étaient montés à Jérusalem, des juifs d'Asie, ayant vu Paul au temple, soulevèrent toute la foule et mirent les mains sur lui, en criant, « En Israélite, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Ce n'était pas vrai, mais on avait vu qu'il y avait des hommes avec lui et Paul n'aurait pas fait entrer dans le temple un Grec. Mais, parce que Timothée, il était, oui, il était d'un père grec, mais d'une femme juive. Verset 29. « Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Mais vous voyez, ils croyaient, mais ils n'étaient pas exact, pas vrai. Alors, toute la ville fut émue, malgré le bon conseil de Jacques, hein, ça n'a pas marché. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, alors c'est la prophétie d'Agabus qui commence à être réalisé, ils le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Donc, ça n'a pas été long. Comme ils cherchaient à le tuer, voilà ce qu'on voulait faire, hein, comme on avait fait pour Étienne, le bruit vint au tribun de la cohorte, qui était donc un Romain, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, le tribun qui était à la tour Antonia, qui était à côté du temple, prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, donc ces juifs cessèrent de frapper Paul. Parce que voilà, c'est la police qui vient. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Parce qu'il a pensé que c'était un malfaiteur, hein, ou quelqu'un qui faisait du trouble. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Mais pourquoi? Au fond, pour l'épargner, hein, aussi. Parce qu'on l'aurait mis en morceaux. Lorsque Paul fut sur les degrés, donc de la forteresse, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Et vous avez vu, quand l'ayatollah Khomeini est mort, hein, vous avez peut-être eu de ces images, hein, des foules en délire. Ils ne voulaient pas le tuer, mais ils voulaient prendre un morceau de son drap mortuaire, de son suaire. Et c'était quelque chose de terrible, à un tel point qu'ils ont fait tomber le cercueil. Voilà. Eh bien, vous pouvez très bien vous représenter ce qui se passe dans ces moments-là. Et la foule criait « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ?» Voilà, maintenant, il est tout étonné. « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?» Vous voyez qu'on prenait Paul pour le chef de 4000 brigands, hein, dans la bonne et la mauvaise renommée. Vous pouvez lire les épîtres et vous retrouverez maintenant les fesses, hein, quand Paul dit qu'il a été dans la bonne et la mauvaise renommée. Et Paul dit, verset 39, « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, de Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Et alors là, c'est le Seigneur qui le permet. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un profond silence. Est-ce qu'il y en a des profonds silences à Mahanaïm, quand la cloche sonne? Un profond silence s'établit. Et Paul parle le grec, là? Non, l'hébreu. Parle en langue hébraïque. Alors, vous voyez, c'est une révélation, au fond, pour le tribun. Il lui a parlé en grec, en particulier, maintenant il va parler en hébreu. Et là, vous avez le discours de Paul. « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Et comment va-t-il se défendre? C'est ça qui est merveilleux. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Qu'est-ce que c'est qu'un silence redoublé? Le silence, c'est le silence, hein, semble-t-il. Mais un silence redoublé. On n'entendait pas voler une mouche. Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait la langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. » Gamaliel, c'était ce fameux docteur qui avait donné un sage conseil au Sanhédrin au jour où Jean et Pierre avaient été traduits devant ce tribunal. Il leur avait dit qu'il fallait qu'il fasse attention de ne pas s'opposer aux disciples, parce qu'il pourrait peut-être faire la guerre à qui? Non pas à des hommes, mais de faire la guerre à Dieu. Eh bien, l'apôtre Paul avait eu comme maître ce Gamaliel, mais il n'avait pas suivi le conseil de Gamaliel. Et lui, il avait fait la guerre à Dieu, jusqu'à sa conversion. J'ai été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous voyez qu'il ne les injurie pas. Il leur dit, ce que vous êtes en train de faire, ben, moi je l'ai fait aussi, vous êtes tous pleins de zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Et c'est vrai, si on lit les chapitres précédents des Actes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Quand j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Qu'est-ce que Paul est en train de raconter ? Sa conversion. Alors ce sont des faits, ce sont des choses incontestables. Voilà son témoignage. Il raconte sa conversion, qui nous a déjà été rapportée dans le chapitre 9, par Luc, n'est-ce pas, qui nous a raconté dans le chapitre 9 sa conversion. Mais maintenant, c'est Paul lui-même qui raconte ce qui s'est passé. Mais ça correspond à ce qu'il est dit dans le chapitre 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, il était devenu aveugle, à cause de l'éclat de cette lumière, c'est comme si vous regardiez le soleil, hein, vous devenez aveugle. Ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Le grand chef qui devait arriver sur son cheval, le voilà qui arrive, conduit par la main de ses soldats. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Et il me dit, alors ça, c'est ce que j'appelle le message d'Ananias. Et je crois que vous devriez souligner ce message dans vos Bibles, c'est le message que tout jeune croyant, une fois sauvé, devrait connaître. C'est ce qu'on devrait enseigner à tout jeune croyant qui se dit sauvé. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Maintenant que tu es au Seigneur, tu vas vivre pour connaître sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, elle nous est révélée. Et puis, pour voir le juste, qui est-ce que nous devons regarder, qui est-ce que nous devons contempler? C'est Jésus, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que Dieu vous a choisi dans ce monde pour faire sa volonté. Mais pour faire sa volonté, il faut d'abord la connaître. Hein. Et qu'est-ce qui nous révèle la volonté de Dieu? L'Écriture. Hein. Alors il vous faut lire l'Écriture. Si vous ne lisez pas l'Écriture, vous ne ferez pas de progrès. C'est impossible. Vous ne progresserez pas, vous serez toujours résistant, vous aurez toujours besoin des conseils de Pierre, de Jacques et de Jean, et puis vous ne serez pas sûr du chemin où vous devez marcher. Vous devez apprendre à connaître la volonté du Seigneur. Vous devez voir le juste, c'est-à-dire avoir toujours Jésus comme modèle. Que ferait Jésus? Est-ce qu'il ferait ceci? Est-ce qu'il ferait cela? Si Jésus ne ferait pas cela, vous savez qu'on n'avait pas à le faire. Et à entendre les paroles de sa bouche. Vous voyez, il y a trois choses. Connaître la volonté de Dieu, c'est un des grands points. Voir le juste, avoir toujours Jésus comme objet devant les yeux, courir la course les yeux fixés sur Jésus, et entendre les paroles de sa bouche, nous nourrir de la parole. Et le Saint-Esprit va nous rappeler ces paroles. Car tu lui serviras de témoin. Donc, pour être témoin, il faut connaître la volonté de Dieu, voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Que les paroles du Christ habitent en vous avec abondance, dit Paul ailleurs dans l'Épître aux Colossiens. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Donc un témoin, il rapporte les choses qu'il a vues et qu'il a entendues. Et puis, Ananias lui dit, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et ailleurs, il est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et voilà le témoignage que Paul rend. De retour à Jérusalem, il continue, donc devant la foule, « Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Hein? » Parce que Paul allait parler de Jésus. Il allait dire, mais ce Jésus que vous dites que son corps a été enlevé du tombeau pendant que les gardiens dormaient, bien non, moi je l'ai vu dans le ciel. Et je dis, Seigneur, ils savent que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, voilà un témoin, c'est Étienne, qui a été martyr, puisque témoin veut dire martyr, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai vers les nations, vers les païens. Alors, on l'a écouté jusque-là, hein, mais tout à coup, quand il parle des païens, vous voyez cette haine des juifs pour les païens. C'était les chiens. Hein. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. C'est comme Étienne, hein, on l'a écouté jusqu'à un certain moment, puis après, alors c'est le blocage. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, « Hôte de la terre, un pareil homme. » Qu'est-ce que ça veut dire, hôte? Tuez-le. Il n'est pas digne de vivre. Mais qu'est-ce qu'on a dit de Jésus devant Pilate? Hôte, hôte, crucifie-le. Alors vous voyez que le disciple n'est pas plus que son maître. Lui aussi doit entendre ces paroles. Hôte, hôte de la terre, un pareil homme. Il poussait des cris, jetait leurs vêtements, lancer de la poussière en l'air. Qu'est-ce que vous voyez dans les stades, quelquefois? Les mêmes choses pour les idoles du présent siècle, mais pas pour les faire mourir, mais pour les acclamer. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question. Qu'est-ce que c'est la question? C'est le fouet, n'est-ce pas? Puis on se dit, à force de coups de fouet, il dira la vérité sur son affaire. Il veut lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, ça veut dire quelque chose, hein? On lui a enlevé ses vêtements. Paul dit au centenier, qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, » répondit-il. Mais vous voyez, il n'a pas besoin d'en dire long, mais il témoigne simplement de ce qui est, c'est des choses vraies. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Il avait dû payer pour être citoyen romain, tandis que Paul, il l'était. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance, parce qu'il était né à Tarse. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Donc, Paul a eu l'occasion de prêcher dans la ville même de Jérusalem. Et il prêchait sur les degrés de la forteresse Antonia, avant qu'on le mette dans la forteresse. Il avait pu s'adresser à la foule, au peuple. Maintenant, il va être devant le tribunal où Jésus lui-même avait dû comparaître, et il allait pouvoir encore parler aux responsables juifs de Jérusalem. C'est le chapitre 23 et le chapitre 24 que nous considérerons, Dieu voulant, ce soir, soit 62 versets, pour que nous puissions arriver à couvrir tout ce livre. Y a-t-il des questions ? Ah non, 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 les milliers de Juifs qui étaient devenus des croyants faisaient partie de l'Église. Ça, c'était les Juifs qui voulaient le faire mourir, ce n'était pas les chrétiens. N'est-ce pas ? Des milliers de Juifs étaient devenus des croyants dans le sens qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus. N'est-ce pas ? Il y avait des Juifs qui... Comment ? Ah non, mais pas de cette manière-là, pas pour le faire mourir. N'est-ce pas ? Mais ils avaient cette tendance, ils restaient attachés aux vieilles traditions. C'était des croyants au Seigneur Jésus, ils avaient accepté le Seigneur, mais ils estimaient, ils judaïsaient encore, c'était encore l'ancienne religion. Non, 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 mais on lui avait conseillé de faire comme s'il était juif. Mais vous voyez que ce conseil n'a pas marché. Parce qu'il y a eu à Jérusalem des visiteurs qui venaient d'Asie et qui avaient entendu Paul en Asie. Alors ça, c'était des Juifs qui avaient refusé l'évangile en Asie, qui étaient restés juifs, et qui accusaient Paul de tous les crimes possibles. Et d'autres questions ? Eh bien, mes amis, puisque le Seigneur nous a favorisés d'un temps si merveilleux, nous allons vous libérer en espérant ne pas vous avoir trop fatigué. Mais il est dit, ta parole m'a fait vivre. Et depuis plus de 60 ans, j'en fais l'expérience. C'est cette parole qui nous renouvelle et qui nous fortifie. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous montres par ta parole ces hommes qui ont été tes témoins. Et nous sommes reconnaissants d'avoir des exemples qui nous instruisent mieux que des théories sur ce que c'est qu'un témoin et un témoignage. Et nous voudrions que nous soyons tout remplis de cette vision de ces hommes qui se sont trouvés dans toutes les situations possibles et qui ont parlé, qui ont accepté, qui ne se sont pas révoltés, mais que tu as su délivrer. Donne-nous d'avoir cette confiance éperdue en toi. Et donne-nous de nous souvenir, une fois que nous serons hors de ce camp, de tout ce que tu nous as enseigné, soit dans la salle, soit dans cette merveilleuse clairière, où nous étions environnés de ces arbres, et où nous pouvions entendre même les oiseaux, ces oiseaux du ciel qui n'ont pas de soucis parce qu'ils ont un Père céleste. Et nous, nous valons beaucoup mieux qu'eux. Et trop souvent, nous sommes soucieux. Et tu nous dis, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, leur Père céleste les nourrit. Ô notre Dieu, oui, donne-nous de prendre toutes ces leçons dans la nature qui nous confirment tout ce que ta parole nous dit. Et que ta grâce soit sur nous aujourd'hui. Protège-nous, et que si ce soir nous pouvons nous réunir dans cette clairière pour ce pique-nique, que nous puissions le faire dans la paix et avec joie. Donne à nos sœurs et nos frères qui ont travaillé pendant tout ce camp à la cuisine, qui ont eu cette tâche difficile, donne-leur ta récompense, donne-leur plus et mieux que tout ce que nous pouvons espérer et penser. Et que dans cette journée, tu leur accordes un peu de détente et de repos. Et que ta grâce soit avec ceux qui les remplacent et qui n'ont pu participer à cette rencontre. Donne-leur aussi ce dont ils ont besoin. Et que dans ce service, ils soient heureux pour la gloire du Père au nom du Fils et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen.